Direct vous invite à un concert événement en direct et en public du studio 104 de la Maison de la Radio. Pour gagner des places et assister à ce moment unique, écoutez attentivement la matinale de Nicolas Demorand, lundi, et jouez avec nous. Un tirage au sort désignera les heureux gagnants. Gagnez vos places pour le concert exceptionnel de Gotham Project en jouant avec France Inter. Lundi, à partir de 6h30. France Inter.
La différence.
15h04 sur France Inter. Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Ouais, il tombe à pic ce reportage avec toutes ces femmes de mineurs et précisément toutes ces veuves de mineurs dont elles expliquent que leurs maris sont morts, certains à 61 ans, d'autres avant. Voilà, je trouve ça tombe à pic à l'heure où le gouvernement parle de l'inévitable nécessité de rallonger l'âge de la retraite et surtout rallonger la durée de cotisation. Bah oui, vous comprenez. Ça tombe à pic, moi, je trouve. Bravo. Allez, je vous embrasse.
2 minutes, c'est trop court pour dire tout ce que j'ai à dire. Mais là, tout de suite, je viens d'écouter ce mercredi, cette émission sur les femmes de mineurs. J'ai envie de chialer. Mais attends, qu'est-ce qu'il nous fait, ce petit bonhomme-là, ce Mickey, cette ordure? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il casse tout. Mon père s'est battu comme ces femmes. Il était lui aussi à la CGT. Lui aussi, on le traitait de communiste. Lui aussi, on lui a fait des misères. Ils ont réussi à avoir des choses et maintenant, il leur enlève tout. Mais c'est une ignominie. Il mérite quoi? 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 Du volesse? Peut-être. Allez, va. Au revoir. J'ai la haine.
Bonjour les amis, toute l'équipe de là-bas si j'y suis. C'est avec beaucoup d'émotion que Daniel et Jeannette Longhi de Trieux, des mineurs qui ont fait la grève pendant 79 jours, qui ont écouté l'émission avec une grande émotion. Mon mari a participé à la collaboration du chant des mineurs, les deux premiers couplets. Et nous avons vécu une grève de grande solidarité. Croyez-moi que quand vous avez repassé le chant du mineur, je l'ai mis à fond. C'était avec plein de larmes dans les yeux et toute une lutte, une vie de lutte, mais quelle grande solidarité nous avons vécu. Merci pour redonner un peu de la fierté des mineurs. Elle est toujours là, cette fierté. Et la lutte des classes est toujours là. Au revoir, les amis. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous embrasse tous. Au revoir.
Alors, 75 milliards, 115 milliards, 2030, 2050, ça y est, le débat sur les retraites a commencé. Et la seule chose dont on soit sûr pour l'instant, c'est que on va avoir une communication officielle à 6 millions d'euros, un débat politique à 2 balles, et de toutes parts, des explications techniques à 3 francs 6 sous. Alors, comment on fait, nous, pour se repérer là-dedans? Eh, Daniel, c'est le moment de nous sortir le joker. Frédéric Lordon, bien sûr.
Un député, au bout de 15 ans de cotisation, peut prendre sa retraite à 55 ans et toucher 4778,66 euros par mois, évidemment. Pourquoi se gêner? Un sénateur, au bout de 19 ans de cotisation, peut prendre sa retraite à 53 ans, 6757 et des poussières d'euros, je ne me rappelle plus. Tout ça pour vous dire, bah, de qui se moque-t-on, quoi? En plein débat sur les retraites, on parle de pénibilité. C'est sûr que le siège des assemblées et du Sénat, c'est dur. Hein. Le feutre n'est pas terrible, le bois, n'en parlons pas. On dort pas comme on veut parce qu'il y a du bruit. Bon, il faut absolument faire quelque chose pour eux. Aidons-les, cotisons. Je sais pas, faut faire quelque chose, quoi.
Le petit président qui se prend pour Bonaparte s'attaque à nos retraites. Le résultat en sera-t-il la retraite réussie ou la retraite de Russie?
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Nous, on continue notre route au Japon. Nous voilà à Okinawa, c'est-à-dire tout au sud du Japon pour comprendre un petit peu ce qui se passe ici dans cette partie du Japon où il y a des bases américaines qui constituent aujourd'hui un enjeu et un débat très important à travers l'archipel japonais et au niveau le plus élevé du pouvoir et dans l'opinion, mais surtout évidemment ici, voilà 65 ans que ces troupes américaines sont présentes et il y a une bonne partie des habitants du coin qui voudraient bien s'en débarrasser, mais comment s'en débarrasser? Ces troupes renvoient à la bataille d'Okinawa qui en 1945 a été d'une barbarie et d'une cruauté extraordinaire, 200 000 morts dont le tiers de la population de ces îles d'Okinawa. Mais là, nous sommes dans une chapelle et nous venons de rencontrer l'un des derniers, sinon le dernier témoin des suicides collectifs forcés qui eurent lieu en mars 1945. C'est-à-dire que sur ordre de l'armée, les populations étaient invitées, les habitants étaient invités à se suicider collectivement, c'est-à-dire à s'entretuer de façon à ne pas être fait prisonnier par les soldats américains, par l'armée américaine. Cette histoire, cet épisode est très peu connu chez nous, ça fait 359 morts selon certaines sources et on vient de rencontrer l'un des derniers, sinon le dernier témoin de cette horreur qui lui-même a tué sa propre famille et qui maintenant est prêtre. Pendant ce temps-là, dans la base où j'y suis, je vous propose les choses qu'on peut imaginer de faire avec après. Les choses qu'on peut imaginer de faire avec après, c'est une phrase prononcée par Pascal Audin. Vous vous souvenez de Pascal Audin, ce gars qui habite à Jansey et qui a vraiment littéralement changé la vie de ce petit patelin avec des pinceaux, avec des ciseaux, avec de la couleur, avec du verbe et avec une fantaisie, on va dire, et puis une drôle de vie, une vie particulièrement lourde et pesante, mais qu'il a réussi à transformer, à retourner, une sorte de retournement. Pascal Audin, donc aujourd'hui dans la bâche, j'y suis, les choses qu'on peut imaginer de faire avec après. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la bâche, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel et salut tous les AMG, c'est Gaëlle de Vesoul. Je voulais vous signaler que vendredi 16 à partir de 19h aura lieu la première soirée Café Repère au Croquante Verne, 3 places du Grand Puy à Vesoul. Alors rendez-vous à tous les auditeurs modestes et géniaux du coin demain soir entre petits gâteaux et grandes idées. Bonne journée à tous.
Oui, quel est le petit frimeur qui a quelque temps se vantait que lorsqu'il y avait des grèves en France, on ne s'en rendait plus compte. Eh bien, moi, depuis une semaine, eh bien, je m'en rends compte. Ça m'emmerde, mais j'approuve et je trouve que les gars, les cheminots, ont raison de se bagarrer.
Il est quand même un peu dommage. Moi, je suis usager de la SNCF, du service public. Je suis quand même assez étonné que depuis des jours et des jours, chaque bulletin d'information à 13h, à 19h, à 20h, à 15h, eh bien juste après la bourse, on trouve soit des gens qui prennent le train qui sont mécontents, mais on n'y trouve jamais un cheminot ou un usager satisfait que le monde du travail ne se laisse pas faire par rapport et face au monde de la privatisation et du fric, de l'insolence de l'argent.
Auditeur attentif du Puy-de-Dôme, de l'Auvergne et de ses environs, le Café Repère de Clermont-Ferrand, saison 2, aura lieu aujourd'hui, jeudi 15 avril à 18h33, au Baroque Café, 5 boulevard Trudaine, Clermont-Ferrand, en face de l'école de commerce. Aujourd'hui, nous souhaiterons la fête à Syndicat, pour parler de l'état du syndicalisme et des différents modes d'action des salariés dans cette France moderne. Nous vous attendons nombreuses et nombreux à ce soir.
Je vous communique un article paru aujourd'hui dans les DNA, mardi 13 avril.
Vosges, MVM, environ 190 salariés de la manufacture vosgienne de meubles, groupe Parisot, 461 salariés à Matincourt dans les Vosges, sont en grève depuis mercredi. Ils réclament une augmentation des salaires. Au revoir.
Mon nom est Parisot, Laurence Parisot, et la libre entreprise est ma foi, mon credo. Et croit-on que j'ai pu atteindre le sommet pour tomber sous les coups de l'infâme Mermet ? Quoi qu'en disent certains, j'ai la fibre sociale, dividendes ou salaires, je veux balance égale. À 70 ans, en forme ou grabataire, on peut faire, on le sait, un très bon actionnaire. Eh bien, pas d'injustice. À 70 balais, nous aurons, j'en suis sûr, d'excellents salariés.
Le Café Repère de Lons-le-Saunier recevra ce soir au Tiffany chez Albert à 20h30 Pascal Loureiro qui viendra nous parler du fonctionnement et du rôle des prud'hommes. Il est président des prud'hommes de Lons-le-Saunier, délégué syndical de son entreprise et secrétaire du comité d'entreprise. À ce soir, portez-vous bien.
Le prochain rendez-vous du Café Repère de Mirepoix aura lieu le vendredi 16 avril à 20h30 à Tourtrolles dans la salle de réunion de la mairie. Ce jour-là, nous aurons Sergio Caceres, qui est un journaliste bolivien, qui viendra nous présenter son dernier livre sur Evo Morales ou les clés d'une victoire. Donc venez nombreux, Café Repère, Mirepoix. Au revoir et merci.
Au départ, c'est raide, hein? C'est dur hein, de raconter ce truc qu'ils ont fait nous à nous. Partout. Ah oui. Hein. Il y a des trucs qui s'est passé, je veux pas en parler.
Bonjour. Je fais un reportage sur Pascal, figurez-vous.
C'est bien, je suis content. Il y a des gens qui me disaient, mais toi, tu n'y arriveras jamais. Je bouffais le mur, moi.
Comment on pourrait qualifier votre peinture ?
L'art naïf, moi, je l'appelle. Pas de l'art brut. L'art pour enfance. Enfin, un pompier m'a dit un jour... Je m'en rappellerai toute ma vie. Il m'a dit, t'as autre chose de mieux à faire dans ta vie. Il y a eu un déclic qui s'est passé. On m'a dit de te suicider. T'as autre chose de mieux à faire dans ta vie.
Salut, c'est Daniel Mermel. Là-bas, si j'y suis avec Anne Rioux et Pascal Audin. Les choses qu'on peut imaginer de faire avec après.
Flight number 2, arriving from New
York. Voilà, monsieur de la déchetterie, il est là-bas.
Bonjour.
Comment allez-vous ? Voilà.
Très bien.
Je fais un reportage sur Pascal.
Le peintre de Jancey.
Ah, il est très connu comme le peintre de Jancey, oui.
Je viens de temps en temps pour regarder ce qu'il y a.
Et vous n'êtes pas venu en mobylette aujourd'hui ?
Ah non, mais t'as eu le temps. Hein. En scout, s'il mouille, c'est pas la peine, on est tout mouillé. Hein. Je regardais dans la benne de ferraille. Ouais. Je me suis cassé la gueule un jour, là. Ouais.
Dans la benne à ordures, là ?
Ça avait drôle, hein. Ouais. Putain, il n'y a rien de spécieux. Il y a un peu de tout.
Oh, il y a un peu de tout, hein. Une vieille casserole, un vieux chaudron.
En fait, qu'est-ce que vous cherchez ?
Les choses qu'on peut imaginer de faire avec après.
Mais c'est pour faire une sculpture, une peinture ?
Une sculpture. Faut imaginer les affaires un peu. Bon, ça va. Gorgiter dans ma tête. Gorgiter dans la tête. C'est une expression que j'ai, ça. Pour imaginer les choses.
Ah, mais il faut grimper ?
Là, il n'y a rien. Je les connais, les bennes, à force. J'aime bien les fouiller là-dedans, un petit peu.
Vous êtes obligé de descendre là-dedans ?
Je suis bien obligé. J'ai bien fouillé, moi.
Ah,
rends compte la terre qu'il y a.
Là, tiens. Je vais mettre...
Ça va?
Ouais, ça c'est bien ça.
Ça va?
Ça va, ouais. Hein? Ça glisse là. Hein? En gros, regarde ce qu'il jette comme ferraille.
Voilà.
Oh là là, c'est pas belle. Hein? Hop.
Le dur c'est monter, tu vois. Faut t'habituer là. Hein?
Alors qu'est-ce que vous avez trouvé?
Le tricycle là. De la ferraille. Ça va me faire un totem avec ça. Je vais me faire un totem. Tu vois, comme ça, ça va être beau.
On va porter problème. Tout ça à la maison.
Voilà.
Au revoir. À la prochaine.
Ben voilà. Cette benne à ordures, ce tas de ferraille, ce bordel, cette poubelle, ces déchets, ça pourrait être sa vie. Ouais, ça pourrait être sa vie à Pascal Audin. Et il plonge dedans, et il fouille dans tout ça, il en jette, il en remue, il se bagarre avec tout ça. Et de tout ça, il va faire un totem. Un totem, vous voyez ce que c'est qu'un totem? Oui, vous voyez ce que c'est qu'un totem. Et alors, c'est ce qu'il va faire devant nous. Sauf qu'il va fouiller dans sa vie, dans sa mémoire, dans les plis de sa vie, de sa mémoire, qui fut mise en plis. Il va nous expliquer comment eut lieu cette mise en plis qu'il va déplier pour nous. De ces gestes qu'il fait d'artiste, qui ramasse des bouts, des déchets du monde, des poussières, des... Comme Picasso le fit avec la fameuse chèvre. Vous vous souvenez, la chèvre de Picasso? Ou bien avec la selle de vélo et le guidon du vélo. Comment il fit le masque d'un taureau? Ben, c'est la même chose aujourd'hui. Pascal Audin est sur les traces de Picasso. Connaît-il Picasso? Peut-être, peut-être pas. C'est pas ça l'important. L'important, c'est sa vie à lui. C'est sa vie à lui. Comment il prend dans sa vie à lui? Comment avec ses déchets, il refait le monde? Ce que fait Picasso, il refait le monde avec une selle de vélo, un guidon, avec un panier qui va faire le ventre de la chèvre, etc. Il refait le monde avec les déchets du monde, il refait le monde. Et bien Pascal, avec les déchets de sa vie, il refait sa vie. C'est exactement la même chose, comme on dit, se refaire une santé, se refaire la cerise. Vous connaissez cette expression, se refaire la cerise? Et bien c'est ce qu'il a réussi dans sa vie. C'est ce qu'il a réussi dans sa vie et c'est ce que la vie a réussi avec lui. Et les gens du village n'y sont pas pour rien. Il va nous raconter comment partir d'en dessous de tout, en dessous de tout. Il existe maintenant dans ce patelin de Jancey où il peint avec une frénésie incroyable et qu'il produit cet art. Alors il veut pas qu'on dise art brut, bof, dites art naïf, dites art pour les enfants. Il a pas tort. L'histoire de l'art brut, c'est l'histoire de l'art brut, une histoire bien particulière, très forte, très subversive, dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, et puis qui peu à peu est devenu, bon, quelque chose de plus gentillet, de l'insolite, du un peu comme le mot surréalisme. Le mot surréalisme renvoyait à un mouvement extrêmement fort, extrêmement subversif, qui était en rupture avec la pensée, avec le politique également. Et puis c'est devenu un mot qui veut dire fantaisie, surprise. Voilà, c'est fou. C'est, au lieu de dire c'est fou, on dit oh, c'est complètement surréaliste. Voilà. Mais l'art brut a suivi le même cheminement. Mais Pascal Audin, aujourd'hui, on va voir ce qu'il produit comme art, et qui est un art, je le disais en commençant, qui est évidemment hors de toute spéculation, hors du marché de l'art, hors de l'art pour les distingués et les spéculateurs. C'est tout à fait autre chose. C'est un homme singulier que nous allons découvrir d'ici à 16h sur France Inter. Les choses qu'on peut imaginer de faire avec après.
Mais c'est bien plus beau dans la di la di la dodo que la peinture à l'eau. À l'eau, rap tap 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 petit péto, rap tap 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 petit péto, car à habits de carabot. Rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une indéfrisable. Elle est admirable, on en mangerait un tout petit, 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 petit. C'est un jeu face à Wail. On dit de verre en Wail. Et puis on termine dans la dira dira dodo par plaisanterie fine à l'obsèles. Rap tap 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 tipeto, rap tap 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 tipeto, cannabis de carabot. Rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une indéfrisable. Elle est admirable, on en mangerait un tout petit 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 petit. Les automos pawaïles dans les rues des pawaïles. C'est moins rigolo. Les pédalos à l'eau, à l'eau. Rap tap 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 tipeto, rap tap 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 tipeto, carabine de carabot. Rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une indéfrisable. Elle est admirable, on en mangerait un tout petit petit petit. À la wine.
Bonjour, comment ça va?
Ça va. Peut-être aller déjeuner, hein.
Au café du commerce, là-bas?
Voilà.
Bonjour. Vous connaissez Pascal?
Oui, c'est un client. Ah, c'est sûr, c'est un client particulier. Oui, Pascal, c'est quelqu'un de connu, j'en sais. De reconnu, certainement, un jour. Parce qu'il fait des choses particulières. Il fait de la peinture, du dessin, des choses un petit peu hors du commun. Quelqu'un de particulier, il est sympathique, il fait pas d'histoire, mais il a un art, comment on peut appeler ça, baroque, un peu contemporain. Je sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire, brut, naïf.
Et vous, alors, vous connaissez Pascal ?
Oh, j'ai été une fois ou deux visiter son atelier. J'ai trouvé ça un peu, oui, bizarre, on va dire. On peut dire ça bizarre.
Puis on voit quand on passe devant chez lui, de toute façon, parce qu'il a pas assez volé. Et puis de temps en temps, on voit. Voilà les totems, il expose ça dans ses fenêtres. Voilà, ça attire l'œil. Voilà, il y a un artiste chez nous.
Et vous venez tous les jours ici, vous prendre un café ?
Tous les matins.
C'est la petite ville, la petite vie du matin où tout le monde se retrouve au café, en commentant le journal du coin et en sachant les petites histoires du coin. C'est comme ça ? Ça va être un deuxième Picasso.
J'aime pas ce monde.
Comme Picasso, c'est un peu quelqu'un qui faisait, je pense, des dessins un petit peu excentriques, un peu bizarres. Et ben voilà, ça y est, Pascal, on l'a appelé comme ça tout de suite. Pascal, c'est quelqu'un qui s'entend avec tout le monde et qui s'intègre bien là où il vit, je pense. Hein. Il irait vivre sur la banquise, il arriverait à s'entendre avec les ours, je pense. Hein.
Bon, merde, pas de la vie, moi.
Il cultive ses patates, il cultive ses tomates, comme tout le monde. Merci, monsieur.
Si quand j'ai un moment, tac, je commence mes légumes. Hein. Ah ouais. Puis après, je peins, moi, le matin. Pour faire plaire aux gens un petit peu ce qu'on ressent. Moi, chez moi.
Hein. Bah, c'est juste de l'autre côté de la place. Merci.
Merci.
C'est pas long, hein, de traverser la place de Jancey. Son château, son parc floral au cœur de la région Poitou-Charentes, à 25 km au sud de Poitiers et à 30 km du Futuroscope seulement, vous vous rendez compte? Et à Jancey, eh ben, il y a Pascal Audin, on voit que ça se passe bien, hein, dans le bistrot en face, ils sont gentils comme tout. Et voilà, c'est un homme hors du commun. Et comme dit la gentille patronne, il y a un artiste chez nous. Voilà, et ben, c'est cet artiste que je vous propose de découvrir. Je vais parler de l'art brut, et l'art brut, vous savez peut-être, celui qui a inventé le concept d'art brut, c'est Jean Dubuffet. Et Jean Dubuffet, qui était un peintre, un beau jour, il en a eu marre, il a tout arrêté. Et il s'est mis, comme il le disait lui-même, à glorifier le banal. Glorifier le banal et à lutter contre l'asphyxiante culture, disait-il. Et ça a donné une grande rupture, effectivement, dans l'art officiel, dans l'art des maîtres, dans l'art distingué, dans l'art académique, dans l'art professionnel, dans l'art des artistes au service de la des pouvoirs. Et il s'est tourné vers les productions des personnes obscures, disait-il, étrangères au milieu artistique professionnel. Et il s'est émerveillé, étonné, il a promu l'art des malades mentaux, des enfants, des gens vulnérables, des gens marginaux de toutes sortes, pour constituer ces splendides collections qui sont celles de l'art brut, mettant en avant le gribouillage, la matière brute, et découvrant les racines, les origines de l'art si mystérieuse. Qu'est-ce qui fait qu'un homme prend un caillou, le met comme ça alors que le caillou était comme ça et décide que c'est de l'art? Eh bien, ça reste un mystère absolu dont personne ne sait rien, et sans doute pas, Pascal. Pascal a une vie singulière, et vous allez voir ce qu'il a fait de cette vie singulière. C'est un totem qui va nous raconter, c'est un totem qui va se déployer devant nous, qui va apparaître devant nous mot à mot, image par image, drame par drame, souffrance par souffrance.
Mon père m'a dit un jour, tu sais ce qu'il m'a dit ? Une phrase qui m'a resté dans ma tête, moi. Eh oui, hein. Tu dîneras jamais. J'aurais même pas dû te faire, tu vois. Ça m'a toujours travaillé, ça, tu vois. L'esprit, toi. C'est comme ça. C'est mes parents, ils voulaient peut-être pas m'avoir, et puis voilà. Hein. C'est vrai, hein. Parce que j'étais renfermé dans une loggia, tu vois. Tu sais, au mètre carré, il n'y en a pas beaucoup, hein. Hein. Quand t'as une porte devant, putain, tu vois, t'es un hockey comme ça, là.
C'est-à-dire que vous étiez le fils qui était enfermé dans le placard.
Voilà. Qui n'a pas été désiré, toi. Voilà, t'as compris. Quand tu descends mes frères, bon, c'est normal. Ils n'ont pas vécu ça. Eux.
Mais vous aviez combien de frères et sœurs ?
J'en ai deux.
Et vos frères n'habitaient pas avec vous ?
Si. Ils me narguaient.
Ils vous narguaient ?
Ouais, avec les steaks. Quand tu vois un enfant qui est renfermé dans un placard, puis toi, tu vois passer les bons bouts de viande qui se mettaient dans la gaule. Moi, j'avais que dalle, hein. Puis il me narguait devant, puis il bouffait les bons steaks, puis moi je bouffais rien. Ouais. Je bouffais le mur, moi. Je bouffais les plantes. Combien de faim, moi.
Vous n'avez pas mangé?
Bah non, l'autre, il me narguait avec son steak, il passait devant, il faisait les cons. Quoi.
Mais vous ne mangiez jamais à table avec la famille?
Non, il me cachait, moi. C'est là que tu te dis, putain, il y a une révolte, après, plus tard. Mais tu vas pas, il y a pression, tu ne peux rien faire. Ouais. Bah oui. Hein.
Mais vous viviez toujours dans un placard?
Bah oui, hein, quand t'as rien à manger, comment tu fais? Tu restes dans le placard, ils te donnaient comme le chien. Une gamelle de l'eau, puis un bout de pain, puis te démerde-toi après. C'est ça le chien. Quand t'es pas désiré dans une famille, c'est ça. On croit pas comme ça. On entend parler des fois, hein, dans les journaux là. Tu vois, mais c'est dingue, hein, ça. Pouh. Quand tu vois ça, ils sont satermoisés, hein, les enfants après. Hein. Faut y chercher les mots après, c'est dur. Hein.
Et votre mère, elle vous aidait pas?
Bah non. Hein. Pour elle, c'était normal. Voilà. Peut-être on fait vivre peut-être ça à son enfance. Hein. On ne peut pas savoir ce qu'il y a eu dans leur vie. Hein. Et oui, hein. Il y a plein de gens comme ça. Hein. Des dingues, ça. Hein. Elle est longue, l'histoire. Hein. Puis il m'arrivait plein de trucs que je ne peux pas te dire. Hein. Papa, ça ne sort pas. Bon, c'est tout. Ça reste dans mon cœur. Voilà. Bah oui, il y a des trucs que tu ne peux pas dire. Hein. C'est secret.
Mais il vous battait aussi?
Bah oui, hein. Un coup de ceinture, hein, je connais. Hein. Là, tu crains pas ton mal, après c'est bon. Hein. Au départ, c'est raide. Hein. Bon, après, tu prends qui sont d'habitude. Hein. Puis qui te frappent, hein, tu t'as pris l'habitude après. Hein.
Mais c'était votre père qui vous frappait?
Ouais. Quand ils boivent, les mecs, ils sont bons. Hein. Tu veux plein de trucs qui s'est passé après, c'est dingue aussi. Hein. T'es brûlé après. Hein.
Et votre mère ne vous battait pas?
Non, c'est mon père. Mais elle était violente aussi. C'est elle qui commandait tout. Ouais, pour l'argent, tout ça. C'est ma mère qui disait, bon, il mérite ça, voilà, c'est comme ça. C'est moi qui paye aussi pour les autres.
Il faisait des conneries, c'est moi qui prenais. Mais ça va, la tête. Il bougeait pas du plaqueur, de toute façon. Il faisait pas de conneries. C'est dur comme ça, de toute façon. Il est volé, j'en ai rembrassé hein, sur les fesses. Hein. Je sais ce que c'est. Hein. Oh, bah, voyons. Ça fait mal, des fois, quand t'es ensemble.
Ensemble ?
Ouais. Et il faisait comme une ronde. Mes frères, ma mère, puis il me déshabillait, puis je me dis, oh là là, ça fait mal, les mains qu'il avait, mon père. Il me rappelle toujours de ses mains qu'il a. Des grandes paluches, hein. Ça fait mal sur les fesses. Jusqu'à temps que je suis rouge, je pisse le sang. C'est dingue, ça. Non, non, pas la tête. Il n'y a pas de marque comme ça. Et voilà. Je me rappellerai toute ma vie, ça. Mais oui, c'est comme ça. Hein. Quand tu brûles quelqu'un, ils font où qu'il faut, hein. T'en fais pas. Puis ça se voit pas. Quand tu mets un pantalon, ça se voit pas. Voilà. Tu vois rien, toi.
Mais dès le début, ils vous ont mis dans un placard?
Bah oui, c'est comme ça. D'abord, ils me tapent, puis après, ils m'ont renfermé, ils voulaient plus me voir, voilà. C'est pas le désiré, moi, voilà. Mes frères, c'était désiré, eux. Voilà. Il y a toujours un côté dans une famille, j'ai remarqué.
Mais pourquoi, il y a sur trois fils, pourquoi vous?
C'est le dernier. Bah oui, c'est comme ça. J'ai pas choisi, moi, hein. On choisit pas, hein. Comme on dit, on choisit pas sa famille, hein. Ça, c'est vrai, hein.
Le ciel est bleu, le soleil brille, les enfants jouent, s'amusent, sautillent. J'ai du corps au cœur et des chaussettes qui dit. J'ai du corps au cœur. Les pâquerettes dansent au gré du vent, les enfants joufflent, qui est sautille, j'ai du bon au cœur et des chaussettes qui dit. J'ai du bon au cœur et des chaussettes qui dit. Dans la maison, il faut que ça brille. Les enfants joufflent, crient sans tortille. Bien.
Et là, tu sais rien, après, tu vas pas à l'école, non? Hein? Ah oui, voilà, l'école, tu connais pas. Une journée, j'avais été à l'école. Ouais, une ou deux jours, ouais, pas beaucoup, hein. Moi, j'appelle ça deux jours pour moi.
Vous n'avez jamais appris à lire et à écrire,
non,
alors?
Jamais. C'est ma tante qui m'a appris à lire et écrire. Elle m'a donné que des bons conseils. Des bons conseils, apprendre à lire. Bah oui, hein. Puis voir ce que je veux faire plus tard. Bah oui, hein. C'est pas facile pour moi. Hein.
Non, mais elle vous prenait quoi, une fois par semaine, tous les jours?
De temps en temps, qu'on avait le temps. Parce qu'elle m'aimait bien, voilà. Puis moi, j'aimais bien aller dans le jardin. Il y avait plein d'enfants, là. C'était rigolo. Hein. Ça me change, là. Il n'y avait pas le mari qui battait, toi. Tu vois, je commençais à grandir, moi, tout doucement. Il n'y avait personne qui battait, là. Je mangeais bien. Elle me cachait chez elle. Ma grand-mère me cachait chez elle aussi. Mon grand-père aussi. Sous les marches. C'est rigolo, ça. Tu vas te cacher dans la chambre. Comme ça, tes parents qui viennent, ils sentaient que la voiture arrivait. C'est dingue, hein. Ils me cachaient, mais tu fais pas de bruit. Hein. Comme ça, quand ils sont partis, tu pourras manger ton 4 heures. Voilà. Moi, je restais chez eux.
Oui, mais pas longtemps.
Ah oui, hein. C'est con, ça. Elle était sympa, ma grand-mère aussi. Pour ma tante, j'étais un enfant, frustré, toi. On appelle ça frustré de la vie, toi. Un enfant, pour mes parents, difficile. Pour eux, ils voyaient peut-être comme ça. Toi, comme un concon. Un concon, là, qu'on enveloppe.
Ah, un cocon?
Ouais. Puis hop, on le met de côté, toi. Hein?
Mais comment elle a eu l'idée de vous apprendre à lire
et écrire ? Parce qu'elle avait sûrement entendu des choses. Hein. C'est assez après dans les familles. Hein. Ah, vous voulez pas que je reste comme ça hein. Bah oui, c'est normal. Hein. Pour essayer d'apprendre à lire, toi, correctement, les lettres. Puis elle, elle m'aidait de son côté, c'était bien ça. Et expliquer, t'as intérêt d'expliquer bien avec moi. Ouais, c'est de phrase, hein. Puis toute une journée comme ça, j'en avais ras le cul, moi.
C'est long, hein.
Apprendre à lire, c'est dur, hein. Elle m'apprenait, elle m'achetait des beaux bouquins. Tu sais, ils m'ont touché, ce bouquin, toi. Je les vois dans ma tête, les bouquins qu'elle m'avait achetés. J'ai jamais retrouvé sur une brocante. C'est la recherche, les bouquins.
Mais en fait, et quand vous rentriez à la maison, vous reveniez avec les livres?
Bah oui, puis elle me les prenait. C'est ma mère qui les a volés. Je disais à ma tante. Putain, elle a fait ça, tu vois, on va essayer d'y reprendre. Bah, elle ne donnait jamais les bouquins. Et la prochaine fois, on va les laisser chez vous. La tante. Puis c'est ça qu'on faisait, voilà. Bah, j'ai un livre sur la famille, hein. C'est rigolo, ça. Non, mais expliquer comment vivre avec une famille. Ça m'avait intéressé, ça m'avait, toi, la percussion du bouquin, toi.
Mais en fait, vous saviez que dans les autres familles, ça se passe pas comme ça?
Ah non, je le voyais bien, elle m'avait prêt à lire. Après, tu le sais, hein.
En fait, c'est par les livres que vous avez découvert ce que c'est qu'une vie de famille.
Voilà, c'était bien. Puis par ma tante, elle m'expliquait. Sur les gens, comment ils étaient. Il y a plein de trucs. Enfin, j'apprends de A à Z, moi.
Apprendre comment c'est d'être un enfant et de vivre dans une famille.
Voilà. Bah oui, elle était mère, cette femme. Elle avait des enfants. Elle a eu des enfants avant moi, heureusement. Elle a bien fait, aussi. C'est moi qui ai demandé les trucs de base.
Vous demandiez comment c'était la vie.
Voilà.
Autrement que dans votre
famille. Il n'y a pas de gueuleur.
Ça m'intrigue qu'elle ne vous ait pas aidé plus, quoi, c'est ça?
Non, c'était pas son devoir, elle. Hein. Elle ne voyait pas ce qui se passait là-bas. Hein. C'est après, elle l'a su, elle.
Mais elle vous disait aussi pourquoi ça a été comme ça pour vous, dans votre famille à vous?
Ça, elle ne comprend pas, elle. Ouais, elle n'a jamais compris. Elle me l'avait dit l'autre fois. Ah oui, hein. Bah oui, que mes parents, ça allait pas du tout. Ils étaient placés après, là. Ils placent les gens après. Hein. Famille en famille.
C'est-à-dire que vos parents vous ont abandonné?
Voilà, comme s'ils m'abandonnent, ils m'ont placé chez quelqu'un, dans une famille. Ils connaissaient les familles, et puis voilà, ils m'ont mis là-dedans. Hein, puis démerde-toi, après ils ne voulaient plus entendre parler de moi. Hein.
Mais à quel âge ils vous ont placé?
J'étais petit, moi, là. Petit. Je ne me rappelle plus, moi. Je ne peux pas me rappeler. C'est impossible. La mémoire est coupée, là, après. Hein. Quand il t'arrive des trucs atroces avec tes parents, tu perds la notion, hein.
Vous n'avez jamais demandé de l'aide à votre mère un jour en essayant de lui parler de...
À mon frère, j'ai demandé de l'aide. Au départ, ils s'en foutaient, puis après, plus tard, il a vu que... Il s'est mis en colère, mon frère. Bah oui. Hein.
Mais alors, au début, vos frères, ils trouvaient ça normal, quoi.
Ouais, parce que, voilà, c'est comme ça. Ils rigolaient, c'est normal. Ils bouffaient, oui. Moi, je bouffais pour lui.
Et il y avait un chien dans la maison?
Non, c'est dommage. Si, il y en a eu un plus tard. Ah oui, le chien, il était traité mieux que moi, oui, je le dis, moi. Il avait tout, il avait une couverture, il avait un habit. Il s'appelait Teddy, je me rappelle.
Et même lui, il n'était pas sympa avec vous?
Si, il était sympa, quand il me voyait. Quand il me voyait. Il était bien nourri, le chien. Pas moi, ouais.
L'histoire de Pascal Audin, donc cet homme devenu il y a peu finalement dans sa vie un artiste, comment il est passé de cette vie, de cet enfer, de ce cauchemar, à ce qu'il fait aujourd'hui dans cette maison, une grande maison qui est sur la place de Jancey, une petite ville avec son château, je l'ai dit, qui est à 25 km au sud de Poitiers. Et ben voilà, comment il est passé de l'un à l'autre, c'est mystérieux. Quel enchantement, quelle surprise, quelle rupture, quel miracle, on peut dire, l'a fait passer de ce cauchemar au soleil, aux millions de soleils qu'il peint sur ses toiles, pas seulement sur ses toiles, d'ailleurs, des toiles, des objets, des casseroles, tout ce qui tombe sous la main, il peint ainsi. Il y a un très beau papier que j'ai sous les yeux de Claude Aumont, un certain, ou une peut-être Claude Aumont, dans La Nouvelle République. C'est extraordinaire comme des gens aussi extraordinaires, évidemment, d'apparence ordinaire, peuvent donner de talent aux autres. C'est singulier comme phénomène, ça aussi.
Non, dans les marches, ça va descendre pas dans mon tampon.
Il y a des centres pédagogiques. J'allais tout seul en plus. Ma tante a m'emmené là-dedans pour essayer de me réadapter, toi, dans la société. C'est pas facile, hein. Les instituts, toi. J'arrive pas à dire le nom, moi. C'est un truc pédagogique, toi. C'était des gens comme des psychiatres. C'était pas des psychiatres, en plus, des docteurs. Puis, tu sais, il avait des grands cahiers, le mec, pour voir avec les yeux si j'allais bien ou pas, toi. Il me testait. C'était marrant, ce truc-là. C'est un truc pédagogique, toi, on appelle ça.
Les premiers médecins qui vous ont observé, ouais, ils ont trouvé que vous alliez bien ?
Pour eux, ouais. Ouais, pour eux. Même des habillés, jamais, je voulais pas. Bah oui, voilà, tu sais.
Et vous ne vous racontiez rien ?
Bah non, mais c'est, j'avais trop peur de... Tu vois, ça sache. Bah oui. Hein.
Pourquoi vous vouliez pas qu'ils vous déshabillent ?
Quand t'es marqué à vie. Marqué, c'est là-dedans, c'est dans l'estomac, là, non hein? Ça se voit pas. Moi, je le sens, moi. Je le ressens, moi. Eh oui, hein. Quand tu veux cacher la vérité, hein. Ah non, ça se voit pas. C'est là-dedans. Non, non, je voulais pas. J'étais un enfant, toi, je... Tu peux pas imaginer un enfant... Comment ça s'appelle, les mots, toi? Ça va pas dire ce mot, toi. Ouais, frusté, là, toi. Hein? Après, t'es frusté dans toi-même, aussi. Hein? T'es sali, voilà. Quand t'es un enfant comme ça, tu peux pas. T'oses pas. T'es vachement pudique après. Hein. Quand tu veux pas déshabiller, hein. Il l'aurait vu, le mec. Hein. Ah là, ça aurait été loin après, toi. Mais je voulais pas, moi, toi. Je voulais que personne ne sache, moi, ça. Toi, je voulais pas faire un scandale, moi, avec mes parents après. Hein. Ça va dans mon cœur.
Mais alors, pourquoi vous n'avez pas parlé aux médecins ?
Tous les médecins, ça sert à rien. Ils disent que c'est secret personnel, c'est pas vrai. Mes parents, ils payaient tout le monde, toi. Ça se passe comme ça dans les familles, hein. Pas que ça sache autour de nous, autour du village. C'était un petit truc à Buxerolles. Tout le monde se connaissait, toi. Peut-être ma mère a payé les gens pour rien dire après, toi.
Mais comme,
ça se passe comme ça.
Mais les gens devaient le savoir dans le village.
Ah non, ils me voyaient pas. Mais bon. Parce que là, ça allait plus du tout. Hein. Bah oui, je voulais pas rester chez moi. Hein. Bah oui, je m'échappais des fois. Il hein. Y a que ça à faire pour me sauver, moi. J'arrivais à m'échapper, moi. Bah oui, personne ne voulait rien faire dans ce temps-là. Ah oui. C'est par les toits. J'ai défoncé le toit pour me sauver, moi. Bah oui, hein. Ben, je remets une solution et tout était fermé. J'ai défoncé la porte avant, puis le toit. Puis là, je suis parti. Voilà. Ben, je me démerde. C'est dur. Hein. Puis je suis pas revenu après, moi. Ben, ouais.
Et vous êtes allé où ?
Partout. Ben oui. Hein. Pour essayer de trouver de l'aide. Personne ne voulait m'écouter. Demander de l'aide à quelqu'un pour essayer de m'en sortir. Jusqu'au jour, il y a une catastrophe aussi, voilà. Ben oui, hein, c'est comme ça que ça arrive, les catastrophes, des fois. Hein. Moi, je vous dirais pas, c'est un truc qui est dans moi-même. C'est secret, ça, après. Ben oui, mais je vivais dehors, moi, c'est tout. Hein.
C'est-à-dire qu'en fait, vers 14-15 ans, c'est là que vous êtes enfui,
voilà,
et vous êtes resté dehors, alors.
Voilà, je voulais rester dehors, c'était mieux. Pour moi, j'avais pas battu, rien, dehors. Personne ne m'a fait de mal, moi.
Théoriquement, on vous a pas cherché ?
Si, ils ont essayé. À chaque endroit, j'avais une toile de tente. Ils me l'ont volé. C'est le bordel, ça.
Oui, mais moi, je parle de vos parents.
Bah oui, c'est eux qui me volaient ma toile de tente. T'sais, ils m'avaient repéré. Je couchais dans un champ. Je dis, tiens, il est là, à un tel endroit, on va y piquer sa toile de tente. La méchanceté, c'est ça. C'est dingue comme ils sont, les parents.
Mais même la police, théoriquement...
Non, la police, non. Rien. Je m'avais enfui, regarde, j'avais 14 ans, je m'avais enfui. Et je me rappellerai toute ma vie, mon frère s'en rappelle de ça. J'avais 375 kilomètres. J'ai piqué le boulot de mon frère. 14 ans, pour un petit de 14 ans, c'est déjà bien. Hein. Voilà la notion de la route. Hein.
Mais pourquoi vous avez fait autant de route ?
Parce que j'en avais tellement marre de mes parents, j'ai piqué le boulot de mon frère. Les conneries, c'est ça. Et là, je peux dire, j'étais déçu après. Là, ils m'ont battu, là. Bah ben là, la rouste. Ils m'ont retrouvé, les filles qui m'ont, ils m'ont chopé là-bas. Moi, je fouillais les poubelles, toi, pour bouffer, toi. Moi, j'ai pas fait de vol comme ça. Ah ben, ils m'ont téléphoné à mes parents, ben, non, je ne sais pas, fallait les chercher après, parce que non. J'étais pas fier. Ben, j'ai commencé une branlée, comme j'ai jamais vu une branlée comme ça. Putain, c'est dur. Hein.
Là, ils vous ont ramené à la maison et vous avez été obligé de rester de nouveau ?
Ben oui. Hein. Voilà. choisit pas. Comme on dit, on choisit pas sa famille. Hein? Ça c'est vrai. Hein? Les ours en plus. La passion de Monsieur Audin, c'est les ours.
Mais vous avez combien d'ours là ?
Oh, je les compte même plus. Déjà, j'en avais compté 2009 déjà. Un ours, il y en avait un peu plus maintenant. Il y en a plein de côté dans une chambre. Allez, remplis la chambre. Ça rappelle l'enfance que j'ai pas eu, moi, aller là, moi.
Oh, ça va.
Alors ça, c'est le premier étage. Hein.
Voilà. Tiens, il n'y a plus de lumière, c'est vrai. J'ai enlevé l'ampoule, j'en avais besoin. Allez, là, il y en a partout, là. Ça, c'est mon honneur de mon enfance.
C'est un ours en peluche. Voilà.
Mais je l'aime bien, il est vieux. Il est de mon âge. Il a mon âge. Ah oui, il a 50 ans. Puis il n'est pas abîmé. Puis dedans, il est en paille. Ils ont tous une âme, les ours.
Mais vous avez eu des ours dans votre enfance ?
Oui, oui, j'en ai eu un. Il s'appelait Matouvu Minizup. Et puis, il me suivait partout, à l'école, partout. J'étais une fois à l'école, il me suivait partout.
À l'école. Vous le cachiez à l'école, dans votre pull ?
Ouais, ouais, c'est rigolo. Bah oui, j'ai raconté des histoires, mais il me raconte des histoires, peut-être. Voilà, c'était mon ours préféré.
Il n'y a qu'à lui que vous parliez,
voilà,
quoi.
Voilà, c'est marrant. Quand j'étais un garçon timide, je causais à personne, parce que je causais à mon ours, il me donnait les réponses, moi, je donnais autre chose, moi. Du bien-être. Il m'embrassait, moi, je l'embrassais. Voilà, il me suivait partout. Puis un jour, je l'ai enterré pour pas que personne ne le prenne. J'ai grandi et puis pour pas l'emmener partout, c'est vrai.
Alors, ouais. Alors comme vous pouviez pas l'emmener partout...
Je voulais pas que mes parents me le volent. Je voulais que personne ne le prenne. C'était fort, ça, pour moi. Ça m'a touché beaucoup, ça. Puis j'y repense, pour des années après, ça, c'est marrant.
Vous l'avez mis à quel âge, vous l'avez enterré ?
J'avais 15-16 ans. Je l'ai enterré dans une grande carrière, je sais où que c'est. Je l'ai enterré, j'ai fait un trou, puis j'ai fait une croix, bien, c'est marrant.
Vous l'avez retrouvé ?
Non. Je l'ai pas trouvé, impossible. On va pas démonter la carrière. C'est comme ça, c'est l'instinct. Je veux personne ne prenne mon ours. Je l'ai enterré. Pour lui donner la vie. Ouais. Et maintenant, je collectionne les ours parce qu'ils ont une âme dans moi. Ouais, je vais pas en parler. C'est trop douloureux. J'aime pas les médecins. Ils m'apportent pas du bien-être. Ils font des choses que non, je peux pas admettre. Voilà. Mais des fois, j'ai pas envie de raconter. Parce que ça fait trop mal dans son cœur.
Ça fait plus mal que l'histoire des parents ?
Ah oui, ils donnent trop de médicaments. Tu deviens cinglé avec ça. Ça rend les gens fous. Ouais. Puis les piqûres aussi, Modécat. C'est un traitement qu'ils donnent ça dans les fesses. Là, ça t'assomme, boum, tu tombes. Ouais.
Mais qui vous avez envoyé dans cet hôpital ?
Ben, c'est mes parents. Ah, c'est plus dur. Hein. Ah, voilà, c'est pour ça que je veux pas en parler, toi. C'est trop dur pour moi. Ah oui. J'étais placement d'office. D'office, t'as plus le droit de sortir. Moi, j'étais jeune. C'est dur pour un jeune de 15 ans de rentrer dans un hôpital comme ça. Ah oui, hein. C'est très, très dur avec tout ce que j'ai subi avec mes parents. Puis rentrer dans un hôpital comme ça, c'est pire, ça. Tu viens de cintrer après. Hein.
C'est pire que ce que vous ont fait subir vos parents, c'est possible ?
Oui, oui. Ah ouais, oui, oui. S'il n'y a personne pour sortir de là-dedans, c'est dur. Hein.
Mais vous en êtes sorti quand même.
Oui. Le docteur n'a pas voulu me laisser sortir, puis un jour, quelqu'un est venu me chercher un jour. Hein. Enfin, je m'en sorte, moi. Quelqu'un a fait la démarche de me sortir de là-dedans. Hein. Quelqu'un que j'aime bien maintenant. Voilà. Un de mes frères. Voilà. Il m'a dit, il ne faut pas que tu restes là-dedans. Tu viens complètement cintré là-dedans. T'as vu comment t'es, t'es uniforme.
Mais
c'est
atroce,
ces médicaments. Hein. Le Modécat aussi, hein, ça fait des trucs incroyables. Hein. Puis tu sens pas ta force. Hein. Les membres se tournent. Tu pourrais tuer un mec dehors, hein, sans le savoir. Les gens, ils ne peuvent pas imaginer. Tu tapes la tête contre les murs, les gens, ils ne peuvent pas imaginer. Hein. Ah oui, hein, tu sais pas ce que tu fais. Tu fais caca sur toi-même. Hein. Voilà, c'est ça. Tu t'en rends pas compte.
Vous êtes resté combien de temps ?
Assez longtemps, ouais, quelques années.
Mais sans l'intervention de votre frère, vous y seriez encore, en fait.
Voilà. J'aurais pas peint. J'aurais pas vu les plus belles choses de ma vie se dérouler. Connaître du monde, peindre. Il y a une force en moi, je voulais y arriver, moi. À me sortir de ce pétrin, là, putain. Moi, j'ai surmonté tout ça, moi. J'ai une force en moi-même que les gens voient pas. C'est là-dedans que ça reste, et puis ça explose un jour. Hein. Pas bien que ça explose. Hein. C'est bien, ça. C'est une force de la volonté que j'ai eue. C'est bien. Je suis content. Puis il y a des gens qui me le disaient. Ils me disaient, toi, tu n'y arriveras jamais. Hein. Et ouais, toi. Il y a beaucoup de gens qui me le disaient dans les hôpitaux comme ça. Ils me disaient, toi, tu vas revenir. Hein. Non, je ne ferai pas l'erreur, j'ai dit. Toi, je suis sorti, c'est terminé. Je ne reviendrai jamais. Et le mec, il me dit, tu vas rechuter. Tu vas rechuter, couillon. Il y en a qui rechutent, c'est vrai. Moi, j'ai pas rechuté. Hein. Voilà. Moi, je voulais pas rechuter, je voulais faire quelque chose de ma vie, moi. Toi, je vais essayer. Mais quoi faire aussi, au départ, c'est pas facile. Hein. Peindre, c'était mon plaisir, après, voilà. Puis les gens sont très contents de moi, maintenant. Ils m'encouragent, c'est bien. Ça me donne des bons points dans ma vie.
C'était un reportage d'Anne Rioux. Merci à toute la tribu Bernardo, Odile Dubur et à l'éducateur Grégoire Bertchenko. À lire Asphyxiante culture de Jean Dubuffet, publié par les éditions de Minuit en 1986. Vous retrouverez bien entendu toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émissions, là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Alain Gadan et Benjamin de la Gâtinée, à la réalisation Coy Nguyen et Raphaël Moutarde, assistante Agnès Lebotte, chef du répondeur Céline Rouzet. Le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis est le 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Perdu. Chasseuse de corps en guerre, passeuse de frontières, conteuse de zones abandonnées, traductrice des joies, des peurs, des conseils des anciens, bâtarde, fragile, invisible, viens, viens là.
Bonne fin d'après-midi. Dans quelques minutes, Frédéric Lodéon pour le Carrefour de l'Odéon.
France Inter, partenaire de l'exposition Les Promesses du Passé, au Centre Pompidou jusqu'au 19 juillet. 20 ans après la chute du mur de Berlin, le Centre Pompidou explore la création artistique à travers le travail de plus de 50 artistes originaires de l'ancienne Europe de l'Est et au-delà. L'exposition Les Promesses du Passé, à retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Julie Gacon.
Bonjour, le volcan islandais n'a pas l'air de vouloir s'en tenir là. Les nuages de fumée qu'il dégage depuis hier pourraient durer plusieurs semaines encore, d'après les experts. La Grande-Bretagne vient de prolonger la fermeture de son espace aérien jusqu'à demain matin. Au moins, impossible aussi d'accéder à la Norvège, la Suède, au Danemark. Et par effet d'entraînement, plusieurs avions sont toujours cloués au sol à Roissy. Emmanuel Leclerc a joint Maurice Georges à la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile.
Pour ce qui concerne les perturbations actuellement sur le sol français, essentiellement, ce sont tous les vols qui sont au départ ou à l'arrivée des pays nordiques et du Royaume-Uni. Donc ça représente environ 150 vols sur Roissy pour la journée. Tous les vols transatlantiques qui vont vers les États-Unis, qui partent cet après-midi, ils rejoignent l'océan Atlantique en contournant par le sud le Royaume-Uni et donc par l'espace aérien français du centre de contrôle de Brest. Et des compagnies comme Air France devraient pouvoir maintenir a priori tous leurs vols en courrier prévu. À ma connaissance, c'est assez exceptionnel, oui. J'ai jamais rencontré de telle situation, effectivement. Donc, c'est quelque chose qui est très très important, oui. Et ce qui est en plus compliqué, c'est le fait qu'on n'est pas, comme vous l'avez noté vous-même, de prévisions très claires sur la suite du phénomène. On n'est pas encore dans une période de très très grande saturation de l'espace aérien. Sans se gérer. Bah, si vous voulez, les décisions sont prises quand même à l'avance, c'est ce qui permet de gérer la situation en commençant par annuler les décollages. Donc à partir du moment où vous annulez les décollages, vous maîtrisez la situation en l'air.
La grève à la SNCF entrera demain dans son 10e jour. Plusieurs assemblées générales ont décidé de reconduire le mouvement à Marseille, à Lyon, à Toulouse. Les cheminots eux-mêmes déconseillent de prendre le train ce week-end depuis ou en direction du sud. C'est le montant actuel de l'allocation spécifique de solidarité. 460 euros seront versés pendant plusieurs mois aux chômeurs de fin de droit. Il serait 1 million d'après Pôle emploi. 360 000 d'entre eux vont bénéficier de ce dispositif annoncé tout à l'heure par le chef de l'État lors de sa visite d'une agence francilienne. Décidément, Toyota ne sait plus où donner de la tête après la pédale qui se coince et le frein qui ne freine plus. Voici qu'un magazine américain accuse la voiture de luxe Lexus GX460 d'être dangereuse dans les virages. Aussitôt dit, Toyota suspend la vente de ses 4x4 dans le monde entier. Elle en stoppe aussi la production pour 9 jours dans son usine de Tahara, dans le centre du Japon. En pleine tempête sur les scandales pédophiles et alors que le pape à l'instant appelle les chrétiens à faire pénitence pour reconnaître les erreurs commises dans leur vie, l'Église catholique se fonde d'une campagne nationale de communication sur les vocations. Alors l'Église vise large, hein, les 16-22 ans avec des affiches placardées dans les bars et les cinémas, les 22-30 ans, là ce sera dans les universités et les crous, et puis les plus de 30 ans qui pourraient être en train de se chercher. Pourquoi pas moi, disent les affiches. Aujourd'hui en France, la prêtrise ne tente guère qu'une centaine de jeunes parents.
chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros. Je vous attends nombreux pour des enregistrements en public ce soir en Seine-et-Marne à Courtry à 19h. Les sélections se font sur place à la même heure. À ce soir à Courtry.
France Inter, partenaire de l'exposition Beat Takeshi Kitano, gosse de peintre, à la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris. Beat Takeshi Kitano s'installe avec finesse et impertinence dans le monde de l'enfance. Prenant à contre-pied les principes même de l'exposition, il transforme le musée en un parc d'attractions extraordinaire. Retrouvez Beat Takeshi Kitano, gosse de peintre, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com. France Inter, la différence.
Et à 16h04 sur France Inter, on file au carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Julie, bonjour. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. La firme EMI, EMI publie une suite de rééditions consacrée à la musique classique américaine. Alors ça veut dire quoi? Évidemment, la musique classique, c'est pas la même époque qu'en Europe. Mais enfin, on peut dire que Gershwin est un classique américain, par exemple. Et il y a toute une série dont on va profiter dans les jours qui viennent. Pour l'instant, pour commencer tout de suite, gaiement, voici de George Gershwin, Rialto Ripples, c'est-à-dire les vaguelettes qu'on voit sous le pont du Rialto à Venise. Vaguelette du Rialto, le pont de Venise, Rialto Ripples de George Gershwin par Katia et Marielle Labeck. Autre univers complètement différent, bien sûr, musique soviétique, russe et soviétique, avec le premier concerto pour violoncelle et orchestre de Dmitri Shostakovich, et ceci parce que Anna Chang, qui a eu le prix Rostropovich à l'âge de 12 ans, et je m'en souviens très très bien parce que j'étais au jury, Anna Chang, qu'on avait dit on avait dit que c'était trop tôt pour elle, on avait dit qu'on pouvait pas donner un prix comme ça à quelqu'un qui avait 12 ans, et je me souviens très bien que le maître lui-même, Rostropovich, a dit, vous savez, ce qui est important dans la vie, ça n'est pas ce qu'on fait forcément à un moment précis. Évidemment, on a un niveau, mais il faut savoir quelle est la capacité de développement d'une personnalité. Est-ce que vous pensez, votre âme et conscience, que cette personne peut se développer de manière à être encore dans 5 ans digne de ce prix? Et finalement, les résistances étaient tombées, on avait donné le prix à Anna Chang, que moi j'avais entendu en plus à l'âge de 10 ans. Elle avait 10 ans, bien sûr, pas moi. Et c'était dans un concours canadien, et nous avions tous les larmes aux yeux, tellement c'était extraordinaire d'entendre ce petit bout de chou jouer d'une manière aussi émouvante. Et ben, elle continue, elle fait honneur à son maître Rostropovitch. Vous allez entendre ce premier concerto de Shostakovitch qu'elle va jouer au Théâtre des Champs-Élysées samedi. Elle joue avec une intensité, avec une force, avec un élan, avec une sonorité, quelquefois proche du maximum de ce que peut donner l'instrument. Et voilà, j'entends beaucoup de violoncelle, je l'aime toujours cet instrument, bien sûr. Et là, je reconnais la voix de Rostropovitch à travers les mains d'Anna Chang. C'est quand même quelque chose de bouleversant, bien sûr. Voici un extrait de l'Allegretto du premier concerto de Shostakovitch.